Deutsche Welle Magazine Santé.
Le continent américain débarrassé de la rougeole. Cette annonce de l'Organisation panaméricaine de la santé a été faite le 27 septembre. Nous verrons comment les États-Unis ont réussi à éliminer cette maladie virale grâce à la vaccination. Au menu de ce magazine également, un reportage sur les initiatives nigériennes qui luttent contre la malnutrition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine santé, c'est Audrey Parmentier au micro. Les États-Unis avaient déjà éliminé la variole en 1971, la poliomyélite en 1994 et la rubéole en 2015. C'est désormais au tour de la rougeole d'être aux abonnés absents du continent américain, première région dans le monde à y parvenir. Comment est-ce possible? C'est ce que nous explique Patrick Zuber. Il est responsable de l'équipe sécurité des vaccins à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont le siège est à Genève.
Grâce à des stratégies de vaccination très systématiques, un effort soutenu. Il a été possible de protéger un nombre suffisamment grand d'individus dans ces deux continents pour que le virus de la rougeole indigène ne puisse plus se propager d'une personne à l'autre. La transmission indigène de la rougeole n'a plus été documentée maintenant depuis plusieurs années et donc les Amériques ont déclaré l'élimination de la rougeole.
Question extrêmement simple, la rougeole, qu'est-ce que c'est?
On m'avait dit qu'il y a eu un virus. Une maladie qui le plus souvent produit une forte fièvre, des manifestations respiratoires et une éruption cutanée caractéristique, d'où le nom de rougeole. C'est une maladie qui a la particularité d'être due à un virus qui est relativement stable et qui produit une réaction immunitaire forte qui fait que pour la plupart des gens, après un seul cas de rougeole, il n'y aura plus d'autres épisodes dans la vie. Donc c'est une maladie qui, si on la fait naturellement, est un événement unique dans une vie. Une maladie qui souvent est bénigne, mais qui peut avoir des complications. Certaines de ces complications sont des manifestations neurologiques, des encéphalites qui peuvent être fatales. Et puis, chez les enfants relativement vulnérables, malnutris, avec des conditions d'hygiène plus difficiles, eh bien, le taux de mortalité des cas de rougeole reste très élevé. Avant que la vaccination ne soit disponible, on estimait que chaque année, plus de 2 millions d'enfants décédaient à cause de la rougeole. Aujourd'hui, grâce à des vaccinations systématiques dans le monde, en particulier dans les zones les plus défavorisées, eh bien, il reste des décès attribués à la rougeole, mais on a réduit cela de plus de 90%.
Et alors, en quoi, justement, consiste cette vaccination?
Alors, il s'agit d'un vaccin qui est administré par voie intramusculaire, dans l'épaule, dans la cuisse. Et ce vaccin contient au minimum un virus vivant atténué, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble au virus de la rougeole, mais qui ne devrait pas produire la maladie, mais produit la réaction immunitaire suffisante pour se protéger de la maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une protection optimale, il faut que 2 doses de ce vaccin soient administrées dans la petite enfance. Donc en général, on préconise, suivant les régions du monde, une vaccination soit dans la première année, soit dans la deuxième année de vie, comme première dose, et puis une dose de rappel 15 à 18 mois plus tard.
Mais il y a dans de nombreux pays des appréhensions par rapport à ce vaccin, des résistances.
Dans des pays comme l'Allemagne, la France, la Suisse, ces maladies sont devenues extrêmement rares. Et très souvent, les parents se posent la question de la valeur d'une vaccination qui présente toujours un risque potentiel, même si c'est une intervention médicale relativement bénigne. Elle peut avoir des conséquences. Et alors que même que ces maladies sont devenues pratiquement invisibles. Ceci amène parfois à une diminution d'utilisation des vaccins et ça peut amener aussi à un retour de ces maladies.
Oui, typiquement en Allemagne, en 2015, il y a eu un nourrisson qui est mort des suites de la rougeole. Et en Allemagne, il y a aussi cet argument de dire les enfants, il faut qu'ils soient malades, ça renforce leur système immunitaire.
Voilà. Et nous avons fait face à ce genre de débat dans de nombreux pays, en Europe en particulier, mais aussi en Amérique du Nord. Il y a aussi des groupes avec des affinités culturelles, religieuses, qui pensent que la vaccination est une intervention artificielle et qu'il est préférable de s'en passer ou de l'utiliser uniquement dans des indications très précises. Alors là, je pense que la responsabilité des gens de santé publique, des vaccinologues, c'est d'expliquer le mieux possible aux gens les risques réels de ces maladies. L'exemple que vous venez de présenter est un exemple typique. C'est celui du fait qu'on décède encore aujourd'hui de la rougeole en Europe, alors même qu'on a une intervention qui, elle, ne présente pas de tels risques et qui, en plus, est une intervention relativement bon marché. Maintenant, pour ce qui est des pays d'Afrique subsaharienne ou d'Asie du Sud-Est, où la rougeole est une maladie qui tue encore beaucoup d'enfants, où souvent il y a des dictons qui disent compte tes enfants après l'épidémie de rougeole. Nous avons moins fréquemment affaire à ces problèmes de perception. Parce que, effectivement, le fait que les gens, ouais, et leurs proches, perdent des enfants à cause de la rougeole, fait qu'il y a une forte demande pour ces vaccins. Cependant, il y a aussi des situations dans lesquelles les populations peuvent avoir des doutes par rapport à la pertinence des stratégies de vaccination, par rapport aux motivations des autorités qui proposent une vaccination. Et ceci, c'est un problème que l'on rencontre maintenant partout dans le monde, car il y a de nombreux vaccins, il y a de plus en plus de vaccins, et chacune de ces interventions doit être expliquée de la manière la plus claire possible.
Oui, pour éviter justement voilà, que les gens pensent aussi, alors si en plus c'est suggéré par les, enfin suggéré, imposé par les autorités, que ce soit une manipulation quelconque.
Oui, qu'il puisse y avoir d'autres intérêts que la prévention de problèmes de santé, qui eux peuvent être très sérieux, qu'il s'agisse du tétanos, qu'il s'agisse des cancers du col d'utérus, qu'il s'agisse des hépatites. Tout ceci sont des maladies contre lesquelles nous avons actuellement des moyens de prévention extrêmement sûrs, extrêmement efficaces. Mais chacun, dans son cycle de vie et dans les décisions qu'ils font par rapport à leur santé, peuvent se poser des questions sur la pertinence de ces interventions. Donc, c'est un travail d'explication permanente. Les vaccinations ne sont pas des rituels établis. Ils doivent vraiment s'inscrire dans le cadre d'une participation des gens à la gestion de leur santé et de leur bien-être.
Patrick Zuber, responsable de l'équipe sécurité des vaccins à l'OMS, l'organisation qui a annoncé l'envoi d'1 million de doses de vaccins contre le choléra en Haïti. Le nombre de cas de la maladie est en augmentation depuis le passage de l'ouragan Matthew. La préconisation est de procéder à une double injection du vaccin, mais l'OMS s'oriente vers des injections à dose unique pour pouvoir immuniser un plus grand nombre de personnes. Le choléra, nous y reviendrons dans un prochain numéro du magazine Santé. Cap sur le Niger à présent, ce pays sahélien enclavé, un des plus pauvres au monde, fait face au défi de la malnutrition. Depuis des années, il est en proie à des crises alimentaires à répétition. Le taux de prévalence de la malnutrition a atteint aujourd'hui la barre des 15%, le seuil critique de l'Organisation mondiale de la santé. Mais des solutions locales se dessinent, comme a pu le constater notre correspondant à Niamey, Abdulkarim Mahamadou.
Fatouma Salaou est mère d'une petite fille de moins de 3 ans. Elle a été admise au centre de récupération nutritionnelle clinique de la pédiatrie à de l'hôpital national de Niamey.
Mon enfant, ça ne va pas. Il a des paralysies, le maux de tête, la bouche aussi, ça ne va pas. Il a les boutons de la bouche. C'est parce qu'elle ne mange pas. C'est pour cela qu'elle est devenue malnutrie.
Créée en 2005 à la faveur de la grave crise alimentaire, ce CRENI a une capacité de 15 lits, ce qui est nettement insuffisant car le CRENI accueille en moyenne 100 enfants malnutris par mois et tous des cas compliqués, selon le major Issa Aïchatou, responsable du CRENI de l'hôpital national de Niamey.
C'est des cas de complications qu'on admet. Généralement, dès qu'on dit un CRENI, c'est une pathologie de malnutrition associée à une complication liée à la malnutrition. Et généralement, il y a ceux qui viennent tardivement juste pour venir mourir à l'hôpital. Il y a d'autres, on arrive à prendre en charge quand même, ils survivent. Il y a d'autres, vraiment, on peut tout faire, mais le tableau ne permet pas vraiment de récupérer l'enfant. Nous avons une première phase qui permet de stabiliser le patient et une phase de transition qui est une transition entre la première phase et la phase finale. Et maintenant, une deuxième phase qui est une phase pour la préparation à la sortie. On agit selon le protocole national de prise en charge qui a été élaboré en 2005 exactement par l'UNICEF et qui a été révisé jusqu'à maintenant. On se retrouve avec un protocole réduit qui permet de prendre facilement les malnutris en charge. Et les aliments nous proviennent de l'UNICEF, c'est les intrants thérapeutiques, à savoir les F100, F115, les pleins peanuts.
La prise en charge est gratuite. Les enfants reçoivent des produits alimentaires tels que le plan Peanut, un aliment nutritionnel produit par la société de transformation alimentaire STA, une société qui tourne à plein régime car la demande est très forte en ce moment. Au-delà de la prise en charge, Ismaël Barmou, directeur général de la société de transformation alimentaire, pense à la solution de la prévention de la malnutrition.
Avec la crise alimentaire au Niger, certains des partenaires dans la prise en charge, notamment UNICEF, Médecins sans frontières, ont eu un besoin d'avoir des solutions nutritionnelles autres que la farine sur le marché du Niger. Voilà comment elle a été approchée parmi d'autres, et retenue et enfin mise en contact avec l'entreprise Nutricet qui possède les brevets avec lesquels aujourd'hui on travaille encore. On a d'abord la responsabilité d'avoir un impact social important. Voilà pourquoi nous ne sommes pas seulement dans le traitement, nous sommes également aujourd'hui de plus en plus dans la prise en charge de la sortie de la malnutrition.
Au Niger, 2 enfants sur 5 souffrent de malnutrition. C'est pourquoi, au-delà des autorités, plusieurs acteurs s'investissent dans le renforcement de la nutrition. Le collectif Tous Unis en faveur de la nutrition accompagne le gouvernement à travers le plaidoyer et la sensibilisation pour un changement de comportement. Docteur Garbadan Dano Ibrahim, chef du projet collectif Tous Unis en faveur de la nutrition.
En fait, aujourd'hui, pour lutter efficacement contre la malnutrition, en plus de la prise en charge, il y a l'aspect prévention, où on a tout le paquet éducation, protection, ou hygiène, assainissement, des aspects de sensibilisation qu'il faut développer pour pouvoir prévenir d'abord et faire en sorte que les enfants ne tombent même pas, ou bien les enfants qui tombent dans la malnutrition, lorsqu'ils sont guéris, ne retombent plus dans la malnutrition, parce que tout le problème est là.
Au Niger, la nutrition est un droit fondamental consacré par la Constitution. Mais pour que ce droit soit garanti à tous, le Niger doit relever un défi, celui de faire chuter le taux de croissance démographique qui est l'un des plus élevés au monde avec une moyenne de 7 à 8 enfants par femme. À Niamey, Abdoulkarim Mahamadou pour la Deutsche Welle.
Voilà, c'est la fin de ce magazine Santé. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez des suggestions de thèmes pour de futures émissions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse français@dw.com. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.